Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de deuxième degré, parfois d'impertinence, mais toujours avec immensément de bienveillance. Car nous sommes plus qu'une équipe, une famille. Et dans une famille, il n'y a ni jalousie, ni moquerie gratuite. Comme on a pu le constater lorsqu'Eva s'est demandé pourquoi Céline avait un sponsor pour sa rubrique et pas elle, et où j'ai su rapidement, avec tact, apaiser les tensions.
Qui vont rester très timides sous un ciel agité et quelques coups de tonnerre.
Merci Céline et Varoc.
J'ai pas de sponsor ?
Non, mais on va vous en mettre si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Cochonou ? Mais debout les copains, ce n'est pas heureusement qu'une équipe soudée, c'est aussi un électron libre nommé Fabrice Dalméda, le monsieur Histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'occasion de la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition, revient sur le destin inouï de Joseph Morenas, botaniste anti-esclavagiste.
Merci d'écouter Europe 1 ce vendredi 10 mai. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 10 mai. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, François.
C'est plus facile d'être de la police quand on a un doute sur son conjoint. Un fonctionnaire des stupes est soupçonné d'avoir fait espionner sa femme. Le parquet de Nanterre est saisi. Au Soudan, les prisonniers politiques ont retrouvé la liberté depuis quelques jours. L'envoyé spécial d'Europe 1 les a rencontrés. Et puis l'homme le plus riche du monde part à la conquête de la Lune. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a dévoilé un projet d'alunisseur.
Europe 1.
Certains d'entre vous y ont peut-être déjà pensé, espionner votre conjoint. Une drôle d'idée, mais la jalousie ou l'inquiétude peuvent mener dans l'irrationnel, voire dans l'illégal. Comme nous le raconte Pierre de Cossette avec cette information Europe 1, un policier qui a fait surveiller le téléphone de sa femme.
Au beau milieu de l'été dernier, derrière son ordinateur à Nanterre, un policier inscrit sur la plateforme spécialisée un numéro de portable. Il souhaite savoir où l'appareil a borné. Sauf que ce n'est pas le téléphone d'un trafiquant, mais celui de la femme de son collègue de bureau à l'office central des stupes et pendant 3 semaines. Fin juillet, début août, en pleine vacances estivales. La réquisition, comme on dit, aurait pu passer inaperçue si un juge rennais déjà échaudé par un premier dérapage dans ce service n'avait pas demandé des comptes aux enquêteurs en leur imposant de justifier chaque facture détaillée, chaque écoute, chaque géolocalisation. Un mari jaloux, méfiant ou inquiet au choix des activités de son épouse qui demande à son camarade de faire la recherche pour lui. À première vue, le procédé semble assez grossier. Mais selon nos informations, les deux policiers ont plaidé une malheureuse confusion avec un autre numéro inscrit sur le même bloc-notes. Il y a quelques jours, le parquet de Nanterre a été saisi. Côté policier, on s'interroge et l'on soupçonne à l'inverse la justice de s'acharner sur l'office des stupes, alors qu'au plus haut sommet de l'État, on travaille actuellement à une refonte de ce service prestigieux, mais aux méthodes parfois sulfureuses.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Le projet de privatisation du groupe Aéroport de Paris va-t-il se cracher sur un référendum ? Le Conseil constitutionnel a validé la proposition d'un RIP, référendum d'initiative partagée, qui nécessite d'abord 4,5 millions de signatures, comme une pétition. Jean-Rémy Baudot, c'est en tout cas un coup dur pour le gouvernement.
Oui, c'est même un puissant revers pour l'exécutif. La privatisation d'ADP, c'est l'un des projets emblématiques de la loi Pacte de Bruno Le Maire. Un projet désormais sérieusement mis à mal. Du côté de Bercy, on fait le dos rond, on prend note et on jure qu'aucune décision ne sera prise sur ADP, je cite, « dans le délai de la procédure ». Le gouvernement n'est plus maître du temps dans ce dossier. C'est aussi un coup dur symbolique car le Conseil constitutionnel est allé à l'encontre des réserves de l'exécutif. Et pour beaucoup dans la majorité, le risque est désormais d'avoir des référendums sur chaque projet de loi. C'est la fin du parlementarisme, s'inquiète un député En Marche. On va faire quoi sur la réforme des retraites si c'est comme ça à chaque fois, s'alarme-t-il. Cette victoire de l'opposition au sens large, 248 députés de tous bords, n'est pas la fin de l'histoire pour ADP. Mais un élu macroniste soupire, l'alignement des planètes, c'est vraiment fini.
Jean-Rémy Baudot, et on verra si les planètes sont alignées le 26 mai, jour des élections européennes. Emmanuel Macron, en fait, un combat quasi personnel contre Marine Le Pen. Il a d'ailleurs profité du sommet européen d'hier en Roumanie pour partir en campagne. Isabelle Horry.
Officiellement, c'était un sommet pour afficher l'unité des 27. En réalité, ce fut surtout la version européenne d'un meeting de campagne. Chaque dirigeant est resté avec ses amis de son camp politique. Pas question, par exemple, pour le président de s'afficher avec la chancelière allemande. Non, Emmanuel Macron a plutôt jouer la proximité avec les dirigeants du Benelux ou avec le Premier ministre letton, des centristes libéraux comme lui, des alliés pour les semaines à venir. C'est donc ensemble, avec aussi quelques premiers ministres de centre-gauche, qu'ils ont signé une note pour demander plus d'ambition climatique et ensemble qu'ils ont vu quelques jeunes militants. une rencontre qui tombait à pic. Emmanuel Macron a pu s'afficher en pointe sur l'écologie, érigée en première priorité dans le programme de La République En Marche. Le président a d'ailleurs ouvertement évoqué la politique hexagonale. Il veut tout faire pour empêcher le Rassemblement national d'arriver en tête le 26 mai. Depuis la Roumanie, le voilà donc officiellement lancé dans la campagne électorale.
Isabelle Horry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Sibiu, en Roumanie.
Il est 6h04.
Nous partons maintenant pour le Soudan avec ce reportage exceptionnel un mois après la destitution du dictateur Omar el-Béchir.
Lui est désormais en prison tandis que des détenus politiques ont été libérés dans le même temps. Pour Europe 1, Ariane Lavrieux les a rencontrés à Khartoum.
Sa caméra à la main, Mussab passe ses jours et nuits au cœur du campement des manifestants pour alimenter en vidéo la page Facebook officielle du site et suivi par des milliers de personnes.
Là, on filme l'infirmerie du sit-in pour montrer l'organisation de l'intérieur et ce dont on a besoin.
Des scènes de vie simples et extraordinaires pour ce réalisateur emprisonné pendant 2 mois dans une prison secrète.
Pour nous torturer, ils utilisaient tout, l'électricité, les coups. Et ma famille ne savait pas où j'étais. Le 6 avril, quand on a compris que tout le monde était dans la rue contre le régime, j'ai fondu en larmes.
Le même jour, Awad est aussi libéré après 103 jours en enfer. Le corps encore marqué par les coups de bâton, ce militant communiste est passé de bête noire du régime à figure de la coalition d'opposants.
Quand il me frappait, il me disait « Tu vas voir, ce n'est que le début ». Moi, j'étais persuadé que c'était la dernière fois que je serais arrêté. La preuve maintenant, mon rôle, c'est d'aller dans tous les comités révolutionnaires de quartier pour redonner du pouvoir à la société civile.
Et dans cette nouvelle ère en construction, les deux activistes ne s'interdisent qu'un seul mot, celui de revanche. À Khartoum, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Pour l'Europe, ce vendredi est la journée du dépassement. Cela signifie que si le monde entier vivait comme nous, nous aurions consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre peut produire en une année. Et comme nous ne sommes que le 10 mai, il faudrait donc 2,5 planètes environ pour supporter notre mode de vie. Décidément, tous les milliardaires américains auraient voulu être astronautes. Il y a les projets de fusées réutilisables d'Elon Musk, SpaceX, le patron de Tesla. Il y a le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui a déjà lancé des fusées dans l'espace et qui rêve désormais de poser un module sur la Lune, baptisé Blue Moon, un projet qui tombe à pic pour la NASA, nous explique le spécialiste espace d'Europe 1, Alain Sirou.
C'est le compétiteur de SpaceX et il tombe à propos parce que justement, ce qu'il propose là aujourd'hui avec Blue Moon, c'est de fournir ce que la NASA est en train de rechercher et dont elle ne dispose pas aujourd'hui et ce que SpaceX n'a pas, c'est-à-dire un atterrisseur capable de se poser sur la Lune. Ce qu'on appelait à l'époque d'Apollo le LEM, Lunar Engine Module. Et Bezos dit, voilà, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur ce sujet, j'ai un engin qui peut être fabriqué très vite, rapidement, avec un prix défiant toute concurrence, pour emmener des hommes sur la Lune et le matériel qui va avec. Donc, c'est un rebondissement dans une histoire qui ne fait que démarrer depuis en particulier que Donald Trump a fait une pression sur la NASA en disant dans 5 ans au minimum, donc pour la fin de son second mandat, on doit retourner sur la Lune.
Alain Sirou, directeur de la rédaction de la revue Ciel et Espace avec Pauline Jacquot pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de François Geffrier, l'excellent François Geffrier. Preuve qu'âme bien née n'attend pas le nombre des années. Professionnalisme, rigueur, qu'est-ce qu'on peut dire encore de François, Eva?
Il a un petit cul.
Mais ça va pas, mais vivement le week-end, mais calmez-vous, mais faites la terre.
Europe 1. Il est 6h08, Mathieu Noël.
J'ai tellement honte.
À suivre, c'est historique, les amis. Le fact-checking par l'histoire ce matin, à l'occasion de la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Fabrice d'Almeida revient sur le destin inouï de Joseph Morenas, botaniste anti-esclavagiste.
Excellent réveil sur Europe 1. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et tout de suite, on fait un point sur la météo.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Vous en avez un beau sponsor, Céline.
Je trouve aussi.
Passagère aujourd'hui.
Oui, avec du soleil ce matin sur la plupart des régions, mais déjà le ciel se couvre par l'ouest avec le retour de la pluie. Les averses seront bien présentes cet après-midi sur un gros quart nord-ouest. On en aura aussi sur le reste du pays, mais avec encore là quelques éclaircies. Temps plus calme entre les côtes méditerranéennes et la Corse avec du vent sur les caps Corse. Et puis demain, samedi, le temps sera très agité avec des orages sur la moitié est pour l'après-midi. Le retour au calme, ça se confirme à partir de dimanche avec du soleil pour tout le monde.
Merci Céline. Elle voulait un sponsor, le voilà. Mondial Moquette. Et la... Et Maroc, c'est à vous.
Vous êtes stupide. Je présente mes excuses aux auditeurs que j'ai énervés depuis ce matin 5h parce que j'ai posé une question totalement innocente et ça a créé un débat. Voilà, ils s'engueulent via Twitter, le hashtag Europe 1. On parlait du zoo Thoiry qui a ouvert ses portes le 10 mai 1968 et on vous demande justement, est-ce que vous aimez ces lieux? Quels sont les animaux que vous aimez observer? Alors Sophie, elle nous dit, je ne mets pas les pieds au zoo ni au cirque, je hais l'exploitation des animaux dans ce type de structure, mes enfants en sont conscients et ne sont pas demandeurs, tant mieux, mais elle nous a quand même dit bonne journée avec des petits émoticônes animaux. En revanche, par exemple, Sabrina nous dit, nous ferons cet été un stop à Beauval pour les enfants. J'ai un petit de 2 ans qui est déjà passionné de documentaires animaliers, alors, de pandas, voilà, de petits et de gros chats, les tigres.
Si je peux mettre mon grain dans tout ça, si je veux dire, il y a quand même zoo et zoo. Le zoo de Beauval, par exemple, j'ai la chance de connaître le vétérinaire du zoo. Enfin, quand on fait la visite du zoo côté coulisses, avec l'hôpital qu'ils ont pour les animaux, qui est tellement haut de gamme, l'espace qu'il y a pour les animaux.
Exactement.
Et ça permet de sauver des espèces qui sinon n'existeraient plus dans la nature. Donc il y a aussi, évidemment, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est pas bien d'enfermer les animaux, mais il y a aussi.
Les éditeurs en sont conscients.
Quelques avantages.
En tout cas, merci pour toutes vos réponses. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Jérôme Lacroix nous a rejoint pour le Journal des Sports, ce moment qu'attendent avec ferveur et excitation les amateurs de beaux jeux en quête d'analyse sportive fouillée, comme hier sur la défaite de l'Ajax contre Tottenham. Durant les reportages avec Jérôme, on a échangé nos impressions et je crois que ça aurait été dommage de ne pas partager avec vous notre analyse.
Oh non, c'est nul, j'avais pas envie de voir cette finale, j'avais envie de voir Ajax Liverpool quoi. Putain, fait chier Tottenham.
En plus, j'aime pas les finales entre clubs d'un
même pays. Non, c'est pas excitant.
Eh ben voilà, c'est du haut niveau. Allez mon GG Lacroix, on passe au Journal des Sports. À la une, la totale Angleterre.
Eh oui, cette saison, les représentants d'un seul et même pays sont en finale des deux Coupes d'Europe. C'est du jamais vu, 4 clubs anglais, Liverpool, Tottenham en Ligue des Champions et puis Chelsea, Arsenal en Ligue Europa. Chelsea qualifié hier au tir au but contre Francfort en demi-finale retour et puis Arsenal victorieux 4-2 à Valence en Espagne. 3 buts pour le franco-gabonais Aubameyang, ancien joueur de Ligue 1, et 1 but pour le français Lacazette. Les 2 buts valenciens sont l'œuvre d'un autre français, Kevin Gamero. Finale de cette Ligue Europa, Chelsea, Arsenal le 29 mai à Bakou en Azerbaïdjan.
D'après vous, combien de temps, voire de siècles, faudra-t-il attendre pour voir 4 clubs français comme deux en finale de la Ligue Europa? Beaucoup de siècles. L'Europe, toujours, sa perspective fait vibrer les supporters passionnés de Saint-Etienne.
Et oui, parce que les Verts sont sur le point de la retrouver, cette scène européenne. 2 ans après, actuel 4e de Ligue 1, ils ont l'occasion ce soir d'assurer leur place en Ligue Europa la saison prochaine s'ils battent Montpellier en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Mais pas d'hypocrisie, Mathieu. Les Verts visent surtout la 3e place du classement qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions, la Grande Coupe d'Europe. Elle est ce matin à un petit point, cette 3e place, occupée par le rival lyonnais. Les fans en rêvent, ils seront plus de 30 000 ce soir à Geoffroy Guichard, à la grande joie du capitaine des Verts, Loïc Perrin.
Forcément qu'il y a de l'euphorie autour, enfin, on connaît le public stéphanois et c'est excitant de jouer des fins de saison comme celle-ci, donc heureusement qu'il y a de l'euphorie. Mais c'est bien, c'est mieux comme ça quand même. Mais en même temps, on n'est pas non plus maître de notre destin. Je veux dire, si Lyon gagne tous leurs matchs, on a beau gagner tous les matchs, on ne les rattrapera pas.
Saint-Etienne-Montpellier, 20h45, les Lyonnais joueront eux à Marseille dimanche. Ce soir, avant-dernière journée de Ligue 2, Brest peut valider sa montée en Ligue 1 en cas de victoire contre Niort.
La commission de discipline de la Ligue frappe fort, Jérôme.
Dijon perdra 1 point au classement de la Ligue 1 en cas de récidive disciplinaire. Le club bourguignon sanctionné 1 point de pénalité avec sursis après qu'un supporter a lancé un cri raciste à un joueur d'Angers le 12 avril dernier. Le foot féminin est à 4 semaines jour pour jour du début de la Coupe du Monde en France. Les Bleus mesurent leur popularité. 300 enfants sont ce matin attendus pour l'entraînement en public du côté de Perros-Guirec où les Françaises sont en stage.
Le tennis, Gaël Monfils a fait trembler Roger Federer.
Il s'est procuré 2 balles de match, le Français. Toutes 2 sauvées par le Suisse au tournoi sur terre battue de Madrid. Monfils perd finalement cette rencontre. Jérémy Chardy, de son côté, n'a rien pu faire contre Djokovic. Le Serbe file en quart de finale comme Rafael Nadal. Le handball est de 5 titres consécutifs de champion de France pour le PSG. La bande de Nicolas Karabatic sacrée hier soir à 4 journée de la fin de la D1 par une victoire 29-20 à Aix-en-Provence.
On termine avec l'histoire du jour.
12 Ironman en 12 jours. L'exploit réalisé par super extrême sportif Pascal Piche, 55 ans. Hein. Il a fait ça à la Foire de Paris. Chaque jour, il a parcouru 3,8 km en natation dans un bassin monté spécialement, 180 km à vélo sur un home trainer et 42 km sur un
tapis. Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Chaque jour.
C'est pour ça qu'on en parle.
C'est invraisemblable. Mais comment le corps humain peut encaisser un truc pareil?
55 ans.
Merci, c'était le Journal des Sports de Jérôme. Jérôme Lacroix est présent pour découvrir en mode fact-checking les secrets de l'histoire. On pourrait faire appel à Gégé, qui avait eu 12,5 en histoire au bac. Il sait plein de trucs.
Tu sais que sur sourire, elle était lesbienne quand même.
Non. Bon, il sait des trucs, mais comme on a un agrégé sous la main, on va plutôt recourir à Fabrice d'Almeida. Hein.
Voilà,
c'est mieux.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Depuis 2001, le 10 mai est la journée commémorative de l'abolition et de la traite de l'esclavage. Pour la célébrer, vous sortez de l'oubli un botaniste étonnant, Joseph Elzéar Morenas. Quelle est son histoire ?
Morenas, il faut l'imaginer en 1804. Il a 28 ans, cela fait 10 ans qu'il a quitté son village natal de Saint-Christol, dans le Vaucluse. À Paris, il a rencontré le général Decamps en 1802, un proche de Bonaparte, qui s'apprête à prendre la tête d'une expédition vers les possessions françaises des Indes. Parti sur place, Morenas a été fait prisonnier par les Anglais. Et donc, ce jour de 1804, à Calcutta, Decamps obtient sa libération et lui confie une mission. Car Morenas est un agent secret. Sous couvert de recherches sur la botanique, il espionne les Britanniques et agite les Indiens contre eux. Alors les défaites et la chute de Napoléon le contraignent à revenir à Paris.
Que fait-il alors ?
Grâce à la botanique, il entre au comité d'exploration de l'Afrique et le voici au Sénégal en 1818. Il est écœuré par la conduite des commerçants français qui continuent la traite des esclaves, pourtant interdite par le congrès de Vienne en 1815. Le gouvernement ferme les yeux face à ces pratiques criminelles. Il présente donc en 1820 une pétition contre la traite des Noirs devant le Parlement. Un texte qui est entré dans l'histoire. Mais il est traîné dans la boue. Malgré même le soutien d'autorités ecclésiastiques, il fait alors une seconde pétition l'année suivante avec des preuves nouvelles, mais rien n'y fait. Le gouvernement fait la sourde oreille. La traite clandestine continue.
Et Morenas s'est-il découragé ?
Non, pas du tout. Il est resté anti-esclavagiste et a vécu plusieurs années même à Haïti. Et puis, en 1828, le plus grand général de son temps, Antoine de Jomini, un Suisse passé au service du tsar de toutes les Russies, lui demande de venir pour faire de nouvelles acclimatations botaniques en Russie. Était-ce une couverture ? On ne sait pas. Mais en tout cas, après quelques belles réussites agricoles, il repart à l'aventure vers la Mongolie. Et c'est là qu'il meurt, frappé par la fièvre en 1830. Avec lui, c'est un pionnier de l'abolitionnisme, un Français qui savait faire rimer nationalisme et humanisme.
C'était bien de lui rendre hommage ce matin. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Aujourd'hui, à l'occasion de l'événement gastronomique Taste of Paris, à 6h20, nous recevons Victor Mercier, finaliste de la saison 9 de Top Chef. Il revient d'un tour du monde, il s'apprête à ouvrir son restaurant. Céline a déjà commencé à enquêter sur lui. Malheureusement, en tapant son nom sur Google, elle s'est piégée elle-même.
Oh mince ! Je viens de voir qu'il avait gagné Top Chef, je me suis auto-spoilée.
Ouais, c'est con.
Bon réveil à tous, il est 6h17. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le texte a fait l'unanimité à l'Assemblée nationale hier. Un projet de loi pour interdire la pêche électrique dans les eaux territoriales françaises. La pratique est jugée dévastatrice pour la faune et les fonds marins. Mark Zuckerberg reçu à l'Elysée, le patron de Facebook, qui était déjà venu à Paris il y a un an. Il cherche à montrer sa bonne volonté pour lutter contre les contenus haineux sur Internet. Enfin, la Corée du Nord annonce avoir fait un essai de frappe longue portée. Le président américain Donald Trump indique suivre très sérieusement la situation et s'interroge sur la volonté des Nord-Coréens de négocier sur le dossier nucléaire.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 10 mai, l'actu du jour en cette fin de semaine. C'est aussi le salon de la gastronomie Taste of Paris qui se tient durant 4 jours sous la verrière du Grand Palais à Paris. Une grande fête de la gastronomie réunissant une centaine d'artisans, de producteurs, mais aussi une cinquantaine de chefs. C'est quoi être chef aujourd'hui ? Faut-il être passé par les grandes écoles de cuisine ou existe-t-il encore une place pour les autodidactes ? L'exposition médiatique est-elle indispensable ? Bonjour Victor Mercier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes un des chefs cuisiniers présents à Taste of Paris. Le grand public vous connaît notamment grâce à votre participation à Top Chef sur M6, vous avez été finaliste l'an dernier. Vous reveniez alors d'un tour du monde de 9 mois au cours duquel vous avez découvert la cuisine de 15 pays différents. Finalement, vous êtes revenu à Paris. La cuisine française reste la meilleure au monde.
Oui.
Oh mon Dieu, oui. Il faut mettre un peu plus d'enthousiasme.
Oui, attention. Oui, non, je réfléchissais. De façon globale, quand même, je trouve qu'on mange extrêmement bien à Paris.
C'est la plus variée. Ben, en fait, parce qu'elle est plus tellement purement stricto française, la cuisine française. Elle a pris des influences à droite et à gauche et elle est très créative.
Ouais, on a vu vraiment l'apparition de la cuisine fusion, on va dire, ça a commencé avec les frères Troigot il y a plus de 50 ans. Au final, on parlait de produits japonisants, c'est quand ils sont partis faire un petit voyage au Japon qu'ils ont ramené tout ça. Donc oui, au final, la cuisine fusion, ça a 50 ans. Et puis effectivement, un peu à mon grand regret, la cuisine française est vraiment devenue un mix de beaucoup d'influences.
Un peu trop, à votre sens. Elle se perd un peu, la cuisine française.
Je trouve que oui, à un moment, on commence à revenir vraiment à l'essentiel, aux produits, au local et tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelques années, on s'est un peu perdu. Oui.
Je saute quelques questions. On va directement à votre restaurant, puisque vous en parlez, qui va s'appeler Fief, qui va ouvrir bientôt et qui va être justement axé sur le local.
Oui. Alors là, c'est Fief pour fait ici en France. Donc là, on va être que sur des produits de France métropolitaine. Non pas parce qu'on a les meilleurs produits au monde, bien qu'on ait une agriculture qui, à mon sens, c'est quand même sur beaucoup de points très forte. Mais on est surtout... c'est plus parce que ça fait sens, en fait. Et qu'à l'heure actuelle et dans la conjoncture actuelle, je veux pas être un restaurant avec un bilan carbone, on va dire, fou... en important mon ananas du Costa Rica ou parce que je veux faire un dessert aux fruits exotiques. C'est juste ça.
Vous parlez d'une cuisine biomimétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est très stylé, c'est très classe.
Non, c'était une petite erreur de ma part. au moment de Top Chef, c'était que j'aurais dû me taire ce jour-là.
C'est très drôle de l'avouer.
En plus, je m'étais fait charrier sur les réseaux sociaux.
Non, mais plus sérieusement, ça correspond quand même à votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous voulez revenir aussi à des choses beaucoup plus naturelles qui sont en adéquation avec l'environnement.
Quand je dis biomimétique, au final, c'est bon, ça c'est une bêtise, mais je préfère la définition d'Alain Passard qui dit par exemple le plus beau livre de cuisine, c'est la nature. Donc il suit les saisons et il associe les éléments entre eux en fonction des saisons et de ce que lui donne la nature. Et je trouve cette définition vraiment juste et intéressante, parce que pour moi c'est comme ça qu'il faut voir la cuisine.
Alors, vous ne proposerez pas, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, de café dans votre restaurant, car il faut l'importer.
Ouais.
Alors, quelle sera la boisson de substitution? Et question subsidiaire d'Evaroc, cette boisson sera-t-elle alcoolisée?
Oh, c'est pas vrai.
Alors, sur l'alcool.
Allons-y.
Sur l'alcool, on va y aller pleine balle. Je vais m'associer avec un excellent mixologue français qui s'appelle Stéphane Martin. Et donc, on va développer le cocktail français avec le 100%. Donc français, donc sur les softs et sur les spiritueux. Parce qu'il y a en Bretagne notamment des excellents gins, d'excellents whisky. Au final, si on source, donc ça s'appelle du sourcing, il y a tout ce qu'il faut. Voilà.
Alors,
pour le café,
qu'est-ce qu'on prend à la place? Alors, à la fin, quand même, un petit café.
C'est drôle parce que l'autre jour, on m'appelle et on me dit il y a Florent Laydon qui fait un faux café.
Un faux café.
Donc moi je pensais ça fait depuis des mois que je pensais à un faux café. Et donc sans blaguer, le pire c'est qu'on s'est même pas contacté, j'ai même pas regardé son travail.
C'est
un ancien finaliste de Top Chef aussi, qui est très locavore. Et sans se consulter, on a pensé à la même chose, quoi. C'est ouf. Et il l'a sorti dans son restaurant. Donc c'est lui, il le fait à la base de chicorée, malt et graines de tournesol. Moi je fais chicorée, orge et sarrasin. Donc on a
intéressant.
Et honnêtement, c'est assez marrant. Donc hier, j'ai fait une recette autour de ça. J'ai fait asperge cafief, parce que le restaurant s'appelle Fief. Café, je me suis dit cafief.
On a hâte. Avec un papa qui est des cadres commerciaux au Goemio et une maman gérante d'un restaurant d'entreprise, c'était vraiment écrit que vous feriez de la cuisine?
Absolument pas.
C'est venu à quel moment? Vous êtes encore excessivement jeune, enfin je ne vous connais pas, mais
j'ai 28 ans.
Vous avez 28 ans. Et à quel moment ça a été le déclic?
On a commencé à se poser des questions quand on s'est rendu compte que mes cahiers d'SES, il y avait plus de recettes ou de croquis de plats que de cours. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser, mais dès la seconde, on va dire.
Et alors, je pose une question, j'ai du mal à calculer avec votre âge, mais est-ce que c'est des émissions comme Top Chef qui existaient peut-être déjà qui vous ont intéressé à la cuisine, ou pas du tout, c'était avant? Je me rends pas compte.
Ça fait plus longtemps, encore avant. J'ai vu l'apparition d'une émission de cuisine qui s'appelait... plus près des étoiles, je crois, où c'était des jeunes qui allaient dans les plus grandes étoiles.
Mais c'est quand même via des émissions que vous avez eu un peu ce
Oui, chef, oui, chef avec Cyril Lignac.
Oui, chef, oui. Ça a été une des premières, oui,
c'est vrai. C'était vraiment la première, et après Top Chef, c'est vrai que j'ai pas loupé une saison.
Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans la cuisine, qui veut devenir chef? Est-ce qu'il faut... Enfin, j'imagine qu'il faut faire une école de cuisine d'abord, dans un premier temps, plutôt que faire Top Chef. On ne fait pas Top Chef déjà dans un premier temps. Mais est-ce qu'il faut ensuite absolument faire Top Chef? On a l'impression que ça donne une telle exposition, que ça donne une facilité ensuite pour ouvrir un restaurant, un accès aux banques plus facile.
Non, chacun son chemin. Top Chef, c'est arrivé à un moment de ma vie où je rentrais de voyage et j'étais limite obligé de le faire parce que j'avais rien d'autre, quoi. Je suis rentré et je savais pas où j'allais, donc on peut pas aller voir de banque quand on rentre de voyage. J'avais zéro notoriété, ils m'auraient rayonné. J'étais obligé de le faire. J'avais pas envie de retourner travailler pour quelqu'un parce que après un an de liberté totale, c'est compliqué. Donc forcément, Top Chef, c'est arrivé pile au bon moment, mais je le conseille et je le déconseille, Top Chef, en quelque sorte. Parce que ça dépend du parcours qu'on va avoir, des épaules, parce que du psychologique aussi.
Oui, il faut encaisser ça aussi.
C'est dur. Il y a aussi le problème des réseaux sociaux qui... faut dire ce qu'il y a. Maintenant, les candidats, ils en prennent plein la gueule.
Oui, oui.
Donc, il faut être prêt pour ça.
Dernière petite question, juste qu'est-ce qu'il va y avoir à Taste of Paris? On pourra goûter vos...
C'est passé hier, moi j'étais hier.
Ah, vous étiez hier déjà. La masterclass
était
hier.
Je peux en parler quand même vite fait. J'ai fait deux plats.
Ouais.
J'ai fait un plat autour du Cafièvre. Donc là, c'est le mot d'ordre, c'était le local. Donc là, j'ai parlé d'une non-importation. Donc asperges Cafièf, donc c'était des asperges rôties et j'avais fait tout un travail autour du café, du faux café, avec une vinaigrette au malt, enfin voilà.
Ça avait l'air pas mal.
J'ai travaillé tout autour de ça et ensuite le deuxième plat c'était autour du gâchis. Et j'ai fait esturgeon caviar.
Gâcher le caviar, c'est dommage.
Oui. Mais non, de l'anti-gâchis. Non, mais généralement, quand on fait du caviar, l'esturgeon, il part à la
poubelle. Ah oui, c'est vrai. Là, vous avez travaillé l'esturgeon.
Donc, j'ai fait esturgeon caviar. Voilà.
Merci beaucoup, Victor. Merci. Allez tous à Taste of Paris pour découvrir tous ces chefs fabuleux.
Bonne ambiance.
Et bientôt dans le restaurant de Victor, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été là sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le journal de celui qu'on appelle désormais le roi du Uno, David Doucan. Et puis la météo calme et ensoleillée en matinée, mais attention, retour de la pluie par l'ouest cet après-midi.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Et avec vous Céline, nous faisons un point sur la météo du jour, une matinée assez calme.
Oui, avec de larges éclaircies sur quasiment tout le pays. Elles seront même un peu plus généreuses, comme souvent entre la région PACA et la Corse, avec un petit peu de vent. Mais déjà, la pluie fait son retour dans la matinée par l'ouest, sur la façade atlantique. Les nuages gagneront toutes les régions entre la Bretagne et les Pyrénées, avec de bonnes averses cet après-midi. Ça va se gâter également pour les autres, avec un ciel couvert et des averses un petit peu partout. Ce temps instable qui va épargner les côtes méditerranéennes et la Corse, où on aura encore un petit peu de vent. Temps bien bien instable pour demain samedi.
Les températures sont en baisse et un peu juste pour la saison.
Oui, 3 à 8 degrés c'est la moyenne ce matin, 7 à 14 un peu plus au sud, et puis cet après-midi vous prenez les températures d'hier et ça sera les mêmes qu'aujourd'hui.
Ah ça au moins c'est simple. Merci Céline.
Europe 1
5h, 7h Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, un brin déjanté, c'est vrai, avec parfois une touche d'acidité, mais toujours placé sous le signe de la bienveillance, à l'image d'ailleurs de la rédaction d'Europe 1, où l'entraide est le maître mot. Dès qu'un journaliste est en difficulté, c'est une chaîne humaine qui se forme pour venir lui redonner confiance en lui, comme a pu le constater hier Eva Rock.
T'as dit un mot que je n'arrive absolument pas à prononcer.
Kaléidoscope.
C'est impossible.
Kaléidoscope.
Vas-y. J'y arrive pas. Vas-y,
essaye.
Kaléidoscope.
Oui.
T'as réussi. Faut se réjouir des petites victoires du quotidien. Eux, ils gagnent à tous les coups. Politique, économie, médias, les trois fantastiques scannent l'actu pour vous en restituer la substantifique moelle.
Ouais, mais j'ai faim, moi, maintenant.
Mais non, Céline, c'est l'expression. Aujourd'hui, au programme, notamment cette question. Comment Emmanuel Macron compte-t-il intervenir dans la campagne des européennes?
Bienvenue à tous, vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Qui a le plus de pouvoir aujourd'hui, Emmanuel Macron ou Mark Zuckerberg? Le patron de Facebook est reçu à l'Elysée. Au même moment, un ancien cofondateur du réseau social appelle au démantèlement du groupe, devenu trop puissant, trop dangereux à ses yeux. Peut-être une bonne nouvelle pour les aînés. Un accord est en passe d'être signé entre patronat et syndicat avec pour conséquence une augmentation des retraites complémentaires et donc peut-être un peu plus de pouvoir d'achat. Une embellie dans les sondages et soudain un retour au bercail. François-Xavier Bellamy passe la barre des 15% dans certaines enquêtes et plusieurs maires LR qui se disaient Macron compatibles lui assurent leur soutien. Reportage et décryptage dans ce journal. Et enfin les clubs anglais dominent le foot européen. Chelsea a battu Francfort et affrontera Arsenal en finale de la Ligue Europa.
Europa.
Le réseau social Facebook est-il devenu trop puissant? C'est ce que pense Chris Hughes, cofondateur avec Mark Zuckerberg. Il a depuis quitté le groupe et aujourd'hui, il publie une tribune dans laquelle il appelle carrément au démantèlement de Facebook. Les explications de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Comme Mark Zuckerberg, Chris Hughes a gardé son visage juvénile, celui que l'on voit sur les photos de leur époque à Harvard il y a 15 ans. Ils partageaient le même dortoir étudiant et la même vision pour créer Facebook. Mais aujourd'hui, tout a changé.
I'm angry at Mark.
Je suis en colère contre Mark car il a sacrifié la sécurité et le civisme pour des clics. Mark Zuckerberg et Facebook sont devenus trop puissants, estime Chris Hughes, qui ajoute se sentir responsable même s'il est parti il y a 10 ans. Je n'ai pas su voir à quel point les algorithmes pouvaient changer notre culture, influencer des élections ou donner une plateforme à des nationalistes, écrit-il dans le New York Times. Aujourd'hui, prévient-il, Mark Zuckerberg tout seul peut décider de ce que vous voyez quand vous ouvrez Facebook, de ce qui est violent, haineux ou inapproprié dans les messages. Il contrôle et peut censurer les conversations de 2 milliards de personnes, continue Chris Hughes, qui ne voit qu'une seule solution.
It's time to break up Facebook.
Il est temps de démanteler Facebook. Si on en est là, c'est parce que Facebook est un monopole qui écrase, copie ou rachète la concurrence. Il faut donc diviser l'entreprise en plusieurs entités, rendre leur liberté à Instagram et WhatsApp notamment, et même créer un régulateur gouvernemental pour les réseaux sociaux. Je pense que Mark est un type bien au fond, conclut Chris Hughes, mais son pouvoir sans précédent doit être contrôlé. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Mark Zuckerberg qui sera justement aujourd'hui reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Objectif, mettre en place une stratégie contre les contenus haineux sur Internet. Peut-être parleront-ils aussi fiscalité. À titre d'information, sachez que Facebook a réalisé un bénéfice de 2,43 milliards de dollars sur le seul premier trimestre de 2019. L'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur le projet de loi encadrant la restauration de Notre-Dame. Gestion des dons qui ont afflué, conduite des travaux sur ce joyau du patrimoine, mais aussi les délais réduits et les dérogations envisagées aux règles. Tout cela donnera lieu à des débats passionnés entre les députés. Peut-être une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des seniors. Patronat et syndicats doivent signer un accord aujourd'hui qui aura pour conséquence une augmentation des retraites complémentaires. Olivier Samin.
Il faut parler au conditionnel puisque l'accord n'est pas encore scellé, mais il y a deux mesures importantes qui se profilent. La première concerne les 12 millions de personnes déjà à la retraite et qui dépendent de l'Agirc-Arrco. Depuis près de 5 ans, leur pension était chaque année sous-revalorisée. C'était un point de moins que l'inflation. Cette règle pénalisante devrait sauter. Les retraites complémentaires seront à nouveau indexées sur les prix. La deuxième mesure concerne les salariés du privé qui approchent de l'âge de la retraite. Fin 2015, un abattement de 10% avait été institué sur la pension des salariés qui décidaient de partir dès l'âge légal, autrement dit dès 62 ans. Abattement qui s'appliquait pendant les 3 premières années de la retraite, l'idée étant d'inciter les salariés à différer d'un an leur départ. Cet abattement de 10% ne devrait pas disparaître, mais le patronat semble prêt à élargir la liste des cas où cet abattement ne s'applique pas. Jusqu'à présent, il y avait les retraités qui ne payent pas la CSG, certains travailleurs handicapés et les aidants familiaux. Il pourrait y avoir en plus les chômeurs en fin de droit et un nombre plus important de travailleurs handicapés.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Les bons sondages n'y sont sans doute pas pour rien. Plusieurs grands élus locaux de droite modérés un temps séduits par Emmanuel Macron ont annoncé qu'ils soutenaient finalement la liste LR aux européennes. Retour au bercail pour le maire de Reims par exemple, Arnaud Robinet, qui recevait hier dans sa ville Laurent Wauquiez et sa tête de liste François-Xavier Bellamy. Reportage Aurélie Herbemont.
Devant la cathédrale, Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy ont le sourire. Arnaud Robinet a refusé le marché proposé par En Marche. Tu nous soutiens aux européennes, on te soutient aux municipales.
Vous savez, moi, les diktats des partis politiques, je crois qu'on en a tous ras-le-bol, que ce soit d'ailleurs les maires, que ce soit les citoyens. C'est de la politique ancienne, c'est l'ancien monde. Et donc, je ne céderai à aucune pression.
D'autres élus convoités par la majorité, comme le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, ou le niçois Christian Estrosi, voteront aussi LR le 26 mai, un choix salué par Laurent Wauquiez.
Ils le font parce qu'ils refusent d'être emprisonnés
dans cette espèce de choix qu'on voudrait imposer entre Marine Le Pen et le chaos et la déception d'Emmanuel Macron.
Un de ses proches savoure, c'est l'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron, la preuve que l'étiquette En Marche ne rapporte plus. La majorité, elle, encaisse. Ce n'est pas positif, admet un proche d'Édouard Philippe. Un ministre veut croire que le jeu n'est pas fini et qu'il est toujours possible de discuter pour les municipales, mais ce marcheur se veut catégorique. Ils ont choisi d'être contre nous aux européennes. On sera contre eux aux municipales.
Reportage et décryptage signé Aurélie Herbemont. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la procédure de référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Je vous rappelle que quelques 250 députés et sénateurs d'opposition s'étaient unis pour déclencher ce processus. Il leur faut maintenant réunir la signature de 4,7 millions de Français. C'est 10% du corps électoral.
À suivre dans ce journal, le pape a changé la loi de l'Église pour combattre la pédophilie. Explication dans un instant, à tout de suite.
Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Le pape François a changé la loi de l'Église pour combattre la pédophilie.
Oui, motu proprio. Il s'agit d'une lettre écrite par le souverain pontife lui-même et qui modifie le droit canon. Le document était très attendu. François l'avait promis lors de son sommet mondial sur la pédophilie. Le texte oblige désormais le clergé à signaler en interne à l'Église les agressions sexuelles. Explication, Virginie Riva.
Il y a deux avancées, mais deux gros bémols. Le pape oblige les prêtres et religieux à faire un signalement dès qu'il y a un soupçon d'agression sexuelle sur mineur ou sur personne vulnérable. Et par souci d'efficacité, il demande la mise en place de cellules d'écoute partout dans le monde pour que le public puisse faire des signalements, un dispositif qui existe déjà en France notamment. Mais le gros point noir, c'est qu'il n'y a aucune obligation de signalement aux autorités judiciaires des pays. La seconde grande avancée de ce texte, c'est que le pape oblige les prêtres et religieux à dénoncer toute couverture de faits de pédophilie par leur hiérarchie. On peut imaginer théoriquement qu'un tel délit aurait peut-être pu empêcher l'affaire Barbarin. Théoriquement, car le décret n'explicite pas les sanctions, reconnaît une source vaticane. Et surtout, le pape abandonne l'idée d'un tribunal spécial qui aurait été en charge au Vatican de juger les évêques n'ayant pas dénoncé les prêtres pédophiles. Une idée qu'il avait pourtant envisagée au début de son pontificat.
Virginie Riva pour Europe 1. Et maintenant, je souhaite avoir votre attention à tous, puisqu'hier vous avez été un peu dissipés. Si je vous dis Bure en Lorraine, que me répondez-vous ?
Déchets nucléaires, tout ça.
Oui, bravo, oui. Eva Rock. Mais non, pas forcément, parce qu'il y a deux Bures. Bure, B-U-R-E, dans la Meuse, c'est la commune du projet controversé CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires. Et puis, il y a 150 km plus à l'est, Bure, B-U-R-E-S, un petit village avec une base de loisirs. Petit village qui en a assez d'être confondu avec l'autre et sa mauvaise réputation. Alors le maire a payé une campagne de publicité pour qu'il n'y ait plus méprise. Écoutez ce reportage d'Arthur Mbaché.
Sur place, on n'a croisé ni zadistes ni gendarmes. C'est bien la preuve que nous n'étions pas à Bure, le Bure meusien, futur poubelle nucléaire décrié par les écolos. Non, ici à Bure, en Meurthe-et-Moselle, un étang, une base nautique. Le maire, c'est Michel Marchal.
Notre base de loisirs, lorsqu'il y a les réservations, les gens s'interrogent, est-ce que c'est là qu'il y a des déchets radioactifs ? Je pense que c'est une image un peu négative pour notre territoire. Alors on s'est dit peut-être une campagne de communication, sans pour autant se mettre en opposition avec le Bure meusien, qui a sans doute ses qualités aussi. Donc il y aurait des affichages sur des bus sur la métropole de Nancy. Il y a également des panneaux sur 5 semaines. Bon, après, on tirera le trait, on verra si c'est positif ou pas.
La campagne coûte 20 000 euros, dont 3 000 payés par l'ANDRA, l'agence où travaille Dominique Maire, qui construit CIGEO à Bure, l'autre.
On a conscience, en fait, que le projet que nous développons, on sait qu'il comporte effectivement un certain nombre de craintes de la part du public. Et l'idée, c'est pas non plus de porter ombrage à un village de la région.
On peut confondre Bure avec Bure. L'inverse est vrai. On raconte ici l'histoire d'un zadiste à la recherche de ses camarades de lutte, un peu perdu au milieu de gamins, en colo, au bord du lac. Bure, pas celui-là, l'autre, Arthur Nbaché, Europe 1.
Reportage qui traite des problèmes d'homonymie. Vous, par exemple, Mathieu, sans doute, oui. En souffrez-vous chaque année autour du 25 décembre. Football, Ligue Europa.
Je comprends la
situation. C'était ça votre blague ?
Demi-finale retour. Elle n'était pas préparée. Ça s'appelle de la spontanéité.
Voyez-vous ? Elle était juste écrite sur la feuille.
Bon. Football, Ligue Europa, demi-finale retour. 4 buts à 2 pour Arsenal, qui a étrié Valence. Qualification de Chelsea aux dépens de Francfort, au tir au but, 4 buts à 3. Résultat comme en Ligue des Champions, où Liverpool affrontera Tottenham. La finale de la Ligue Europa sera 100% britannique. Chelsea
Arsenal.
Pas de petite vanounette pour finir ?
Mais non, jamais.
Ah,
d'où quand tu fais des blagues, David ? Oh là là.
Waouh, waouh, waouh !
David, d'où quand ?
Axel. Oh oui, on l'a compris.
Oh la vache.
Merci, c'était justement le journal de David Doucan. Un journaliste qui aurait aimé que la postérité l'associe à un sujet prestigieux comme l'ascension au pouvoir d'Emmanuel Macron ou l'analyse minutieuse du Brexit. Et là, c'est raté puisque le nom de Doucan restera à jamais associé au Uno. Uno, le célèbre jeu de société dont les règles ont changé, ce que David nous a expliqué hier avec beaucoup de clarté et de pédagogie.
Je vous parle d'un jeu de cartes, le Uno. Lorsqu'un joueur abat une carte plus 4, qui oblige le suivant à prendre 4 cartes. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'avoir le moins de cartes possible. Bon, ce dernier, le suivant donc, n'a en définitive... Je reprends. Non mais attendez, il faut reprendre. Lorsqu'un joueur abat une carte plus 4, et donc le fait que... Oui, c'est très clair. J'ai réussi à vous expliquer le Brexit, je vais réussir à vous expliquer le Uno.
Visiblement non. Bon, allez, on fait un point sur la météo.
Quel montage malhonnête. Quel montage malhonnête.
C'est sûr qu'il y avait 10 minutes, donc on ne pouvait pas les repasser dans la totalité. Oui, Céline, quel temps fait-il ? Retour du soleil, mais ça va être provisoire.
Oui, c'est vrai. Il sera présent sur la plupart des régions ce matin. Profitez-en, la calmie sera de courte durée. Le ciel va devenir nuageux par l'ouest dès ce matin. Des averses déjà sur les côtes atlantiques et puis ensuite sur une grande partie ouest. Quelques gouttes aussi pour les autres, avec quand même encore quelques rayons de soleil. Le ciel deviendra même orageux dans le sud-ouest cet après-midi. Et puis ce sera en revanche plus calme près des côtes méditerranéennes et en Corse avec du vent. Maintenant sec, les températures elles baissent un petit peu ce matin et sont semblables à celles d'hier pour cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Chaque matin, les trois fantastiques vous éblouissent de leur lumière et décortiquent pour vous les médias, la politique ou encore l'économie. Car comme dirait Céline, la politique et l'économie...
C'est chiant.
Non, c'est passionnant, mais complexe et parfois un peu opaque. Les fantastiques remédient à tout ça.
Bon réveil à tous, il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le patron de Facebook à l'Elysée. Mark Zuckerberg et le chef de l'État se rencontrent pour mettre en place une stratégie afin de lutter contre les contenus haineux sur Internet. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la procédure de référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Je vous rappelle que quelques 250 députés et sénateurs d'opposition s'étaient unis pour déclencher ce processus. Il leur faut maintenant réunir la signature de 4,7 millions de Français. Enfin, football, Ligue Europa, demi-finale retour, 4-2 pour Arsenal qui a battu Valence, qualification de Chelsea aux dépens de Francfort au tir au but 4-3. Résultat, bah comme en Ligue des Champions, hein, Liverpool-Tottenham, la finale de la Ligue Europa sera 100% britannique, Chelsea-Arsenal.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Au moment d'ouvrir la séquence des Trois Fantastiques, j'aimerais rappeler à nos auditeurs et surtout à Céline Dacosta que même s'ils sont de grands éditorialistes, les Fantastiques sont avant tout des êtres humains avec leur joie et leur peine. Or, quel ne fut pas l'ascenseur émotionnel de Mickaël Darmon, notre expert politique hier, lorsqu'il a cru, l'espace d'un instant, furtif mais jouissif, que Céline allait enfin ne pas filer aux toilettes comme aujourd'hui pendant sa chronique.
Eh bah t'es de retour, je vais rester.
Fais-moi rire.
Ça me fait plaisir. Attends, ça dépend, tu parles de quoi ?
Non, je parle des déchets nucléaires qu'on va...
D'accord, bon, je vais pas rester finalement.
Et Mickaël, essayez d'oublier, remobilisez-vous. On commence avec la politique et Céline Dacosta n'est toujours pas là. Président de la République pourrait intervenir lors de la campagne pour les élections européennes. Que se passe-t-il en coulisses ?
Eh bien écoutez, lors du dernier dîner un mardi avec les ponts de la majorité, eh bien le président a mis la question au menu. Comment s'investir de la meilleure des manières pour les européennes ? Un meeting, eh bien Emmanuel Macron s'est demandé, mais est-ce que c'est vraiment la place d'un président de la République d'être à une tribune dans une réunion publique, selon des proches du président également autour de la table, dans sa manière de sentir un peu l'état du pays ? Emmanuel Macron estime que c'est pas vraiment le moment, alors que la sortie du grand débat exige de parler au plus grand nombre des Français. Alors quid d'une intervention médiatique ? Le projet d'une grande émission de télévision de 2 heures sur l'Europe, qu'on avait d'ailleurs révélé ici même, n'a pas abouti finalement, trop compliqué, encore une fois avec l'agenda donc, du grand débat national. Là aussi, les équipes présidentielles sont à la recherche de la bonne formule.
Une intervention devient d'autant plus délicate que le président de la République a choisi de dramatiser les enjeux.
Et oui, et pour Emmanuel Macron, les choses sont claires. Cette campagne des européennes, c'est la redite de 2017. Voilà pourquoi il a décidé de cibler directement et personnellement Marine Le Pen. Donc elle a parfaitement compris le signal et elle a répondu. si Macron perd, eh bien, il doit partir. Et revoilà le temps des dialogues codés entre le pouvoir et Le Pen, comme le faisait à l'époque François Mitterrand. D'ailleurs, quelle coïncidence, justement, Emmanuel Macron a cité une phrase du dernier discours de François Mitterrand donc à Strasbourg, « Le nationalisme, c'est la guerre ». C'était la dernière phrase du président Mitterrand lorsqu'il avait quitté le Parlement de Strasbourg. Et surtout, en faisant cela, eh bien, Macron retend la compétition. Pour lui, le seul match qui existe, c'est face au RN. Un signal pour relancer la mobilisation en Berne avec les signaux à gauche. Ça accompagne également d'une inflexion des thèmes de campagne, hein, l'écologie, l'économie, le social. Bref, l'enjeu est net. Les projections de vote indiquent une déperdition entre 2 et 4 points par rapport au premier tour de l'élection présidentielle. Il doit consolider son socle électoral, tandis que Nathalie Loiseau, eh bien, continue plus discrètement, beaucoup plus discrètement, d'envoyer des signaux donc, sur l'immigration. Bref, hier en Roumanie, le président donc, est entré en campagne. Comment va-t-il intervenir à nouveau ? Bah, vous savez qu'il est amateur de répliques cultes, hein, du cinéma. Alors ces jours-ci, en petit comité, il a adopté la formule de Bacri, hein, qui organise des soirées qui partent en vrille dans le sens de la fête. On s'adapte.
C'est bien vu. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cet éclairage politique. On passe à l'économie. Et Dieu sait, j'avais été invité à cette soirée que les 40 ans d'Axel de Tarlet au Madison Square Garden, ça avait de la gueule. Mais alors là, une vidéo accablante est sortie qui ruine la défense médiatique de Carlos Ghosn. C'est l'anniversaire au château de Versailles de l'ancien patron de Renault-Nissan.
Voilà, ce sont les 60 ans de Carlos Ghosn. Donc c'est une vidéo de 8 minutes qui circule depuis hier sur Internet. Je vous invite à aller la voir. Elle est gratinée. Elle montre bien les dérives du culte de la personnalité de l'ancien patron de Renault-Nissan, qui se prenait mais carrément pour Louis XIV. Donc, on le voit, tel le roi soleil.
Non.
Cette musique d'ailleurs accompagne la vidéo. Il est en haut des marches de Versailles, il accueille ses convives autour de danseurs, de domestiques, de serveurs en tenue d'époque. Donc je vous laisse imaginer. Il y a d'abord un cocktail, puis il y a un dîner aux chandelles dans la galerie des glaces, avec toujours servi par des domestiques en tenue d'époque. Et enfin, le clou du spectacle, un immense feu d'artifice qu'on a peu admiré, donc tiré depuis les jardins du château de Versailles, et qu'on peut admirer à travers ces glaces de la galerie des glaces. Voilà, tout cela est éblouissant. Je vais même vous dire, c'est même très clinquant et on est quand même mal à l'aise pour les invités qui participent à une mascarade, qui participent à une sorte de sacre royal avec Carlos Ghosn, en Louis XIV absolu.
Alors, pour sa défense, si je peux me permettre, l'ancien patron de Renault-Nissan explique qu'il s'agissait là d'une opération de communication pour célébrer les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan.
Voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué, mais quand on voit cette vidéo, cette ligne de défense ne tient plus. D'abord, la réception a eu lieu le 9 mars 2014, c'est pas les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan, c'est le jour précis de son anniversaire. Donc vous voyez, c'est personnel. Deuxième chose, dans cette vidéo, qui dure 8 minutes, j'ai bien cherché, nulle part n'est mentionné Renault-Nissan. Il n'est jamais question d'automobile. On ne voit que Carlos Ghosn et son épouse en couple royal. Et puis la liste des invités, il n'y a pas de ministre, il y a des écrivains, il y a même, alors on se demande ce qu'il fait là, il y a l'acteur François Cluzet. Vous voyez, c'est Carlos Ghosn qui fête son anniversaire parmi les siens, mais cet anniversaire est payé par Renault-Nissan, une facture quand même de plus de 600 000 euros. Mais d'ailleurs, tout cela finalement est très raccord. Vous vous souvenez de Louis XIV qui disait « L'État, c'est moi, je fais ce que je veux ». Eh bien là, le parallèle est flagrant. C'est Louis XIV qui dit « Renault-Nissan, c'est moi, je fais ce que je veux ».
Et alors, quel impact peut avoir cette vidéo, d'après vous, sur le procès de Carlos Ghosn et l'avenir de Renault-Nissan ?
Alors, le procès, il aura lieu l'année prochaine. Ce qui est plus embêtant pour Carlos Ghosn, ce sont surtout les soupçons de détournement d'argent. Mais techniquement, je vais vous dire, cette vidéo pour l'avenir de Renault-Nissan, c'est plutôt bon. Parce que justement, on a là la preuve accablante de ce pouvoir très personnel, très égotique. Et ça permet finalement de tourner la page de Carlos Ghosn et de reconstruire cette alliance éprouvée par cette affaire Carlos Ghosn.
J'ai entendu son avocat à Carlos Ghosn hier soir dire quand même que c'était vraiment pour les 15 ans. Alors il a porté des preuves aussi.
C'est ce qu'il dit depuis le début.
Mais voilà, il y a quand même deux versions
mais
qui
pour
diffèrent sur ce,
les
sur
15
cette
ans
vidéo.
De Salut les copains, je ne suis pas sûr que nulle part ne sera mentionné Europe 1 si on, pour la fête. Vous voyez.
Ah, pour Debout les copains,
si on fait ça
Salut les copains, c'est moi qui vais m'occuper de la fête, ça sera un peu bizarre. Oui, Debout les copains, on fera ça bien sûr aux frais d'Europe 1 en tout cas, pas au mien.
On va finir aussi en musique, mais alors pas du tout avec du Lully. On va aller sur Arte pour découvrir à 23h25 un concert de Sting et Shaggy. Shaggy, c'est un Jamaïcain qui est prince du dancehall, c'est une variante du reggae qui est née dans les années 70. C'est un concert exceptionnel, c'est pour ça que je vous en parle, qui a été tourné dans un lieu magique, le château d'Hérouville. Le château d'Hérouville est à 40 km au nord de Paris, c'est un manoir du 18e siècle qui revit depuis quelques mois. Dans les années 60 et 70, ça a été le studio d'enregistrement prisé par les plus grandes stars internationales, dont eux. Et oui, c'est à Hérouville que les Bee Gees ont enregistré Staying Alive. Ça sera notamment les voix que vous entendez ont été captées dans l'escalier du manoir. Elton John, David Bowie, Iggy Pop, Paul Naref ou encore Marvin Gaye sont passés par là. Et bien justement, Marvin Gaye, Sting et Shaggy reprennent dans le studio réhabilité aujourd'hui. So let's get it on. Let's get it on. Les coulisses du château, la session d'enregistrement, voilà ce qui vous attend dans ce documentaire original et extrêmement bien réalisé. C'est vraiment une expérience immersive, comme si nous assistions à un concert privé au cours duquel nous pourrions entonner évidemment des tubes de Sting comme celui-là. Every breath you take, every move you make. Vos oreilles seront ravies d'être connectées à Arte ce soir, croyez-moi, c'est à 23h25 ou en replay dès demain.
Eva, nos oreilles vous disent merci. Merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon, l'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart. Céline, histoire de voir si vous avez bien suivi ce matin, qu'est-ce qu'a dit Mickaël Darmon dans son papier ?
Je sais plus, mais c'est super.
Merci.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'acheminent doucement et sûrement vers le week-end dans sa loge tapissée de disques d'or et de photos de stars que la jeunesse adule.
Magnifique Lynn Renault.
Nico Saliagas se prépare. Avant sa matinale, il aura droit, comme le veut la coutume, au débrief de celle-ci. Et attention, le débrief, Eva.
C'est comme l'amour, il faut y aller par petits coups au début.
Oui, le débrief de la matinale à suivre.
Bon réveil à tous, c'est les 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Alors que le week-end nous tend ses petits bras potelés comme Archie Harrison à Meghan Markle, je vous le rappelle, ne soyez pas triste, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliagas. Nico, ce qui arrive, il prend pour l'instant la température de la rédaction.
Quelle belle température, ça fait rêver.
Oui, il prend individuellement journaliste par journaliste, c'est pour ça que ça prend un peu de temps et qu'il est souvent en retard pour le débrief. C'est bon Nico, vous avez fini ? Ah, il vous reste encore Jean-Michel Apathy ? Oui ?
Respirez. On est bien, voilà.
Et ben voici enfin Nico Saliagas, présentateur de la matinale d'Europe 1, ou plutôt depuis hier, et la présentation officielle du Royal Baby, The Presentator of the Matinale. Car oui, hier, avec ce sens de l'entertainment qu'on lui connaît, histoire de coller à l'actu, Nikos a décidé de truffer l'émission de références british ou au moins anglo-saxonnes. Le premier surpris fut Laurent Cabrol. La dernière fois qu'un type lui avait demandé « How do you do ?», il avait répondu assez évasif « Quite evasive ».
Yes, you come really well. You come really well.
Une nouvelle fois, hier, Nikos prenait donc le lot au dépourvu en l'entraînant involontairement, je crois, dans un remake de la scène du hammam de la Grande Vadrouille, vous savez.
Are you sure? Where is Big Moustache?
Oui, alors vous allez voir, on n'était pas loin. L'hommage, même involontaire, était beau.
Oh, where is the sunshine? Où est le soleil?
It is not present.
Sur sa lancée, Nikos a ensuite appelé Hélène Zelani.
Thank you so much, Hélène Zelani.
Elle a kiffé.
Je vais m'en rappeler toute ma vie.
Yes, all our life, lucky girl. Quand vint le tour de Nicolas Barré, notre éditorialiste économique, Nikos voulait continuer sa thématique anglo-saxonne, mais ne trouvant pas d'idée, il fit le choix courageux de dire n'importe quoi.
L'édito éco signé Nicolas Barré, le Jon Snow de l'économie.
Ouais.
Game of Thrones.
Oui, Nicolas Barré, Crazy Nico, qui semblait flatté de la comparaison. Ah oui, c'est ce que ça veut dire en anglais, je sais pas, je traduis littéralement. Un truc qu'il raconterait à ses petits-enfants plus tard. Nicolas Barré, Crazy Nico, elle vient de comprendre. Puis Nikos a passé la seconde et il a commencé à faire son travail de journaliste en soulignant un peu l'absurdité de ce prénom choisi pour le Royal Baby, prénom de Archie Harrison, qui est surtout archi pas pratique dans la vie de tous les jours, comme Nikos l'a mimé pour vous et en version originale, s'il vous plaît.
Archie Harrison, please, eat your soup. I have to finish the plate, Archie.
Bien vu, Nikos. Archie Harrison bidule, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ouais. Très vite, ce sera Archie tout court, puis tout simplement chi, voire chichi pour les intimes. Bref, vous êtes dur, mais vous êtes juste, Nikos. La monarchie anglaise bat de l'aile. She beats of the wing, comme on dit à Windsor. Alors que nous, au contraire, on rayonne. On explose. La preuve ce soir, Nikos, soirée exceptionnelle sur Europe 1 pour fêter les 40 ans de Crash ton venin, entre 20h et 22h avec Émilie Mazoyer. Recevra Louis Bertignac, Richard Colinca, les bébés brunes pour une spéciale téléphone. Et je sais que vous vous entraînez pour vous-même faire un featuring ce soir avec Louis Bertignac. J'ai entendu vos répètes hier.
Je rêvais de
un autre monde.
C'est moi.
Écoutez, c'est moi ça. Il vous reste 13 heures. Comme dirait Archie Harrison, keep calm and carry on.
Bravo, bravo Mathieu Noël.
Et bon
quelle sortie avant le week-end. J'ai vraiment chanté ça.
Ben, je crois que c'est vous.
Quelle honte. Merci Eva Rock. Merci les enfants.
Nikos.
Reposez-vous bien ce week-end. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Nicolas.
Vous parlez toujours anglais, Laurent Cabrol?
Bien, moi, oui.
Ouais.
On n'arrête pas le progrès.
C'est le franglais.
Bon, il dit quoi le ciel alors, mais il dit aujourd'hui avant le week-end?
Il dit déjà que nous avons des températures d'un large spectre et vraiment très, très, très étalées, puisque nous avons de 1 degré à Reims, l'amplitude atteint 16 degrés à Calvi, en passant par 2 à Charleville, 4 à Deauville en ce moment, 5 à Rennes, 6 à Nancy, 8 en banlieue parisienne, 9 à Lille, 10 à Paris, Poitiers-Ville et Lyon, 11 à Cognac et 12 à Toulouse. Vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Alors nous parlons, donc couvrez-vous si vous êtes du côté de Reims et Charleville, mais après à Calvi, vous pouvez partir très léger. En ce qui concerne la couleur du ciel, nous sommes entre deux zones de pluie. Alors bon, ce seront presque les dernières. L'une s'en va, nous avons encore un petit peu de pluie ce matin dans les régions de l'Est, mais elles vont vraiment s'échapper assez rapidement. Et puis, d'autres arrivent. Alors celles qui arrivent ne vont pas avancer très vite. Elles sont sur le littoral atlantique, on les voit très bien en ce moment sur les images satellites, mais elles vont remonter et elles vont surtout affecter la Bretagne, la basse Normandie, la Loire-Atlantique et les Pays de la Loire, avec un ciel très nuageux et des pluies dans l'après-midi, alors qu'ailleurs, ce sont plutôt des averses. On n'y échappera pas aux averses, sur la Picardie, le Centre, le Poitou-Charente, nous aurons quelques ondées sur Paris, sur la Bourgogne, le Nord, la Champagne-Ardenne. C'est moins important que ces jours derniers,
d'accord.
C'est moins violent, il y a moins de vent. Mais enfin, c'est pas trop sympa encore.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mon cher Laurent Cabrol. Merci beaucoup.
Oui, le prochain point météo juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.